Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Vous savez, c'est la seule émission de radio au monde en français, 100% consacrée aux vins et aux spiritueux.
On est sûr de
et,
ça
et hein absolument, David Cobol. Ouais, on a fait le tour du monde avec Sud Radio et Patrick Roger nous en remercie d'ailleurs tous les jours. Et je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple, à Paris. Il y en a beaucoup, notamment celle qui est au 77 rue Oberkampf sur 99.9. N'hésitez pas non plus à réagir sur le compte Instra, Invino, Sud Radio pour nous partager vos coups de cœur. En tout cas, on est content de vous retrouver aujourd'hui avec ce menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Tout à l'heure, on aura Valérie Pajotin qui est parmi nous, la directrice de Anivin de France. Nous parlerons des vins orange. Et oui, ça existe. Et puis le vide quiz pour gagner un coffret de gourmand de l'excellent château d'Aulnac dans le Bordelais. Et pour nous accompagner aujourd'hui en ce dimanche 14 avril, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour Alain, bonjour
et
à tous.
Et David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David.
Bonjour.
Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Gilles Bonnefoy, propriétaire du domaine Les Vins de la Madone. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bah alors racontez-nous comment on fait pour passer de commercial chez LVMH à vigneron.
J'étais natif du village dans lequel j'ai décidé de devenir vigneron, mais pas d'une famille de paysans ni vignerons bien sûr. Et de ce fait-là, suite à des études dans le vin, j'avais pas mal de potes vignerons chez lesquels j'allais régulièrement. Et la première des facilités quand je suis sorti de l'école, ça a été de trouver un boulot de commercial. Mmh. Parce qu'à l'époque, il y avait peu de BTS vin et une grosse demande de part de belles maisons comme LVMH. Donc j'ai embrassé cette carrière à 21 ans.
Pour quelle marque? Parce que le groupe est puissant. Et voilà.
Alors à l'époque, ça s'appelait Champagne et Spiritueux Associés. Et c'était d'accord. Veuve Clicquot, Canard Duchesne, et puis beaucoup de spiritueux.
David Cobol, vous connaissez bien.
J'ai
hein
également travaillé. Voilà, nous sommes des anciens collègues.
C'est ça.
Oh là là, c'est merveilleux. Et alors un jour, vous dites, tiens, je change de vie, j'embrasse la vraie vie, j'allais dire, celle de la terre.
Oui, l'idée était sous-jacente depuis mes études, amplifiée par mes connaissances chez des copains vignerons, comme je le disais. Et ça s'est fait de manière un peu, sous forme de test au départ, en louant des parcelles qui étaient plus ou moins abandonnées sur le village, puisqu'on était au cœur d'une appellation.
Le village s'appelle
Chandieu.
Vous êtes où exactement, dans quelle région de France? Parce que Chandieu, il faut quand même préciser. Hein.
Il y en a.
Peut-être commencer par dire qu'on est dans la vallée de la Loire. Le vignoble plus en altitude sur le fleuve. Quand on remonte en direction de la source, il n'y a pas de vignoble identifié plus au sud, puisque la Loire coule du sud au nord. On est entre 400 et 600 mètres d'altitude.
Je vous interromps une seconde, parce que quand on dit vallée de la Loire, comme c'est l'heure du déjeuner, s'il y avait des gens qui étaient en train de couper des oignons et des tomates et de ne pas faire vraiment attention au début de l'émission, on est quand même grosso modo sur la Loire volcanique.
Hein,
on
la
est,
haute on, Loire.
Voilà, c'est pas le Val de Loire, Chenonceau, voilà, c'est
si
la
on fait
vallée
la Loire
de la
à vélo,
Loire.
Il faut bien pas dépédaler.
Voilà,
quoi.
On est sur la vallée de la Loire, il faut viser Rouen. Vous voyez, voilà.
C'est ça, le terme Loire volcanique, c'est celui qui nous définit le mieux sur une carte viticole française, puisqu'on est à la fois entre les volcans et le fleuve Loire, tout simplement. Donc des vignobles d'altitude sur majoritairement des gamets en appellation.
Vous êtes que rouge? Vous avez d'autres couleurs?
On a une grosse majorité de rouge, 85% des surfaces, un peu de blanc et on fait très peu de rosé.
Je crois qu'il y a des variétés spécifiques de gamay de la région.
Oui, on a chez nous un gamay historique qui s'appelle le gamay Saint-Romain, qui fait partie de la grande famille des gamay noirs à jus blanc. On connaît bien le gamay Beaujolais, le gamay d'Auvergne, le gamay de Savoie et le gamay Saint-Romain englobe en fait ces deux vignobles sud-Loire que sont le Forêt et le Rouennais. On a retravaillé sur ce cépage endémique depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, il existe une sélection reconnue et on a créé un conservatoire de vieux gamay Saint-Romain avec une parcelle sur le Forêt, une parcelle sur le Rouennais.
Hélène?
Alors à la Madone, donc vous disiez, vous avez commencé par louer quelques parcelles de vieilles vignes en 97 pour voir si vraiment vous étiez vigneron. Et puis apparemment, vous l'êtes devenu, puisqu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à combien? 11 hectares, c'est ça?
On est à 13 aujourd'hui, oui.
À 13? Oui, oui. Il m'en manque encore deux. Donc c'était la semaine dernière ou...
Non, ça s'est planté progressivement. Ça s'est un peu accéléré sur les dernières années, puisque l'engouement autour des vins d'altitude, le retour à la mode du gamay, le volcanisme qui nous caractérise aussi, tout ça c'est des facteurs qui quand j'ai commencé n'étaient pas porteurs et qui aujourd'hui nous aident énormément. Ouais. Les planètes ont changé d'alignement et clairement les gens veulent du fruit, des vins frais, en rouge j'entends, hein, et si possible de l'originalité. On a tout ça chez nous. On en profite. Ça peut
et ça titre combien, ça le...
Alors, ça peut varier énormément d'un millésime à l'autre. Si on prend l'exemple des 23, on a plutôt des degrés entre 13 et 14.
Ah, quand même, c'est fou.
Oui, ouais. On a eu une absence totale de pluie pendant l'été, ce dernier millésime, qui a amené une concentration extrême des baies. Donc, de belles acidités, de beaux équilibres, mais des degrés qui sont quand même montés. Le phénomène est national. Hein. Quand il ne pleut pas, il y a forcément une grosse concentration.
Il est même international. On oublie aussi que cette région était une des plus grandes régions de viticoles de la France au 19e siècle.
Hein. Exactement. Mmh. En post-phylloxéra, on est un des derniers vignobles qui a été affecté par la maladie. Et ben, on pouvait replanter de la vigne simplement en bouturant à l'époque. Il y avait pénurie de vin en France. Ouais. Et on a vu, entre les années 1860 et 90, le vignoble, les quatre vignobles, Forêt, Rouennais, Saint-Pourçain, Côte d'Auvergne, explosaient. Mmh. Et notamment le vignoble des Côtes d'Auvergne.
Je crois qu'on était à 40 000 hectares, quelque chose comme ça.
Je crois que chez nous, on était à 5 000, mais les Côtes d'Auvergne devaient être à 13 000 de mémoire.
Il y a combien de vignerons ou d'acteurs sur l'ensemble des appellations ?
Alors, sur le Forêt, on est 12 vignerons et une cave coopérative. Ouais. Le Rouennais, il n'y a pas de COP, mais il y a environ 25-30 vignerons.
Je suis obligée de saluer Robert Sérolle. Je suis complètement fan des vins de ce domaine. Oui. Coucou Stéphane. Excusez-moi, je vous laisse continuer.
C'est mérité, c'est le grand acteur de la Loire volcanique. Et bien sûr, grâce à ses vins aussi, il a permis la renommée, la mise en place de la renommée de nos
Mais il faut des leaders, des locomotives. Hein, alors pourquoi les vins de la Madone, alors ? Rappelez-nous.
Alors tout simplement parce que les premières vignes ont été plantées autour du volcan de la Madone. L'histoire de la Madone est assez simple. Phylloxéra, on en parlait à l'instant. Les gens du vignoble, du village gagnaient beaucoup d'argent grâce au vin en 1870-75. Et ils se sont cotisés sous l'impulsion du curé du village pour acheter eux-mêmes et implanter au sommet du volcan qui domine le centre du village une statue de 8 mètres de haut, une Madone. Voilà. Et les premières parcelles récupérées...
En pensant que ça allait les sauver du phylloxéra.
Oui, c'est ça. Ouais.
On ne dit pas la fin de l'histoire parce qu'on la connaît, ça n'a pas marché. Ouais. Mais l'idée était là, clairement.
Alors cette Madone, effectivement, vous êtes en tout cas sous sa bonne étoile, puisque la cuvée Mémoire de Madone rencontre un succès phénoménal. Récemment, 2 étoiles au Guide Hachette, des coups de cœur dans tous les sens.
Oui, il y a eu... voilà, les vins plaisent en rapport à ce qu'on disait précédemment, hein, le gamay, l'altitude, la fraîcheur. Malgré tous les dérèglements climatiques, il faut bien reconnaître que chez nous, on fait partie de ces vignobles qui en bénéficient plus qu'il y a de pertes, notamment sur le plan qualitatif. En termes de régularité de rendement, bah, on a les mêmes soucis que tout le monde.
Ouais.
Tantôt on gèle, tantôt on grêle, tantôt on manque d'eau. Mais en termes de maturité, c'est clairement un avantage énorme par rapport à ce que j'ai connu quand j'ai démarré dans les années 95-2000. Où...
David Cobold.
Gilles, vous avez parlé de sécheresse. En prévision d'une future récolte 2024, quel est l'état des nappes phréatiques cette année ?
Alors, on fait partie des régions, on n'est pas au niveau des Pyrénées-Orientales, mais je dirais juste au-dessus en termes de pluviométrie.
Ah oui, donc, c'est pas terrible.
Non, loin de là. On est en train de revoir complètement notre façon de travailler les sols. On achète des outils qui devraient permettre une meilleure rétention des rares pluies printanières.
Et moins labourées, hein,
j'imagine. Alors, oui et non, on va essayer de travailler au printemps avec un système de rotobèche qui crée des micro-cuvettes en profondeur pour que l'eau reste,
pour capter,
notamment dans les pentes.
Éviter le ruissellement.
C'est ça.
Et puis on n'est que mi-avril, hein. On peut encore rêver d'un printemps pourri.
Bah,
hein. On peut encore rêver qu'il fasse un temps de
Paris,
chien jusqu'à mi-mai. Je veux dire.
Bah, tant qu'il fait beau pour les JO, hein, n'est-ce pas Hélène,
c'est
quoi.
Ça.
Ou alors vous faites un petit ruisseau qui
moi
donne sur la Loire.
Moi j'ai un projet, parce que dans le sud-ouest où je passe une partie de ma vie, on a les nappes phréatiques débordent littéralement. Donc je pense que je vais construire un pipeline pour aller vers vous et un autre vers le Roussillon pour aider.
À mon avis, il y a de l'argent à se faire.
Absolument. Hélène, qui n'est pas une femme d'argent en plus.
Non, bah absolument pas. Il y a une autre cuvée chez vous que j'aime beaucoup, alors on peut dire à l'opposé tout en étant excellent de la Mémoire de la Madone, ce sont les bulles rouges de la Madone. Parce que des bulles rouges, ce n'est pas fréquent.
Non.
Et chez vous, elles sont mais exquises. Alors, c'est super fruité, franchement. Alors, ça se boit tout seul avec modération, oui, je sais.
Toujours.
Mais ça se boit tout seul quand même.
C'est assez particulier. Oui, c'est mieux. En fait, c'est une presse directe de gamay à jus rouge, de gamay teinturier. On a planté des teinturiers en 2013. On était assez contents du rendu. On a replanté ces mêmes cépages à jus rouge en altitude. Et derrière, on s'est retrouvé à vouloir essayer quelque chose en presse directe, puisque David pourra le confirmer, les tanins dans une bulle, c'est pas ce qu'il y a de plus heureux en termes d'accord gustatif, d'équilibre gustatif.
Il faut du sucre pour équilibrer.
Voilà. Mmh. Et là, on arrive à faire une bulle rouge quasiment sans tanin, puisque c'est une presse directe de Gamay teinturier. Quasiment sèche, on est à moins de 10 grammes de sucre. Mmh. Ça fait 9,5
grammes. Bon, en tout cas, c'est à découvrir. Il y a une adresse, un site pour en savoir plus quand on passe dans la région?
Oui, www.lesvinsdelamadone.fr.
Ouais, et la température de service de vos vins, c'est important, notamment les bulles, tiens. À combien
les
bulles, servir
oui, plutôt au frigo, au bas du frigo. Oui,
ouais, au bas du frigo.
8, 10 degrés.
Et puis, alors, quand on remonte, quand il n'y a plus de bulles, ça donne quoi comme température? 12 degrés, 13 degrés pour,
pour les rouges.
Le un peu, un peu rouges. Frais quand même pour les rouges.
Ouais, ouais. Ouais.
Bon, super. Donc, on va venir vous voir. Hein. Donc, la Madone, comme la Madone. Merci Gilles, bonne foi. Hein, Hélène Piau et David Cobold. Et on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Paris. Alors, il y en a beaucoup, hein, notamment celle qui est au 77 rue Oberkampf sur 99.9. Et on remercie d'être toujours super nombreux à nous écouter chaque week-end. Nous sommes très contents. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux et le compte Insta. David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz, David.
La question de la semaine pour gagner un coffret gourmand du château d'Oyac dans le Bordelais est... Comment est né le domaine La Grange des Copains qui se trouve dans le Languedoc, en gros entre Béziers et Montpellier, si j'ai bien compris. Réponse A, d'une histoire d'amitié. Réponse B, d'un héritage familial. Ou C, d'une histoire d'amour.
Bon. A, B ou C.
A, B ou C, c'est assez simple. Vous cochez la bonne case et puis allez toute la semaine sur le site invinoradio.tv, cherchez la rubrique Vino Quiz. Et puis, cochez la bonne réponse, A ou B ou C, et la gagnante sera tirée au sort parmi les bonnes.
Merci beaucoup, David Cobold. Nous accueillons maintenant, avec beaucoup de plaisir, Valérie Pajotin, directrice de Anivin de France. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, la couleur orange est à l'honneur, rien à voir avec un célèbre opérateur téléphonique. Hein.
Non, bien sûr, c'est le retour d'une couleur de vin qui date de 4500 ans et qui a été...
Je dirais 8000.
8000, bon.
Après, ce n'était pas toujours orange, mais bon, c'est des
vins
de macération.
C'était déjà du vin, des vins de macération. Donc, on en vient à la définition du vin orange. Pourquoi cette couleur? Parce que le processus d'élaboration, justement, est sur des raisins blancs qui vont macérer ce qu'on appelle le skin contact, le jus du vin. Le jus du raisin reste en contact avec la peau et va donner cette couleur orange qui est très tendance dans le monde entier et qu'on retrouve aussi bien à l'apéritif que dû à sa structure avec en accompagnement de plats.
Absolument. David ?
Moi, j'ai une petite bémol sur le terme orange parce que des vins de macération n'impliquent pas nécessairement la production de tonalité orange. Moi, j'ai beaucoup été en Géorgie où cette tradition est historique, hein. Ça représente, ces vins-là de macération représentent 7% de la production géorgienne, donc c'est pas énorme, mais c'est 95% de la com.
C'est clair. Mais
la couleur n'est pas toujours orangée. Ce qui caractérise ces vins, c'est la texture tannique. Parce que le contact entre la peau et le jus produit des tanins, enfin l'arc du tanin dans le jus. Et du coup, moi je préfère appeler ça des vins de macération, des vins blancs de macération. Dire qu'ils sont orange, ça dépend un peu de l'oxydation.
Oui, ou peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quoi. Ouais, et Valérie, donc ça concerne beaucoup les vins de France, c'est ça? C'est-à-dire
tout
qu'il y a
fait,
certains vignerons qui cessaient à se produire.
Voilà, et qui rejoignent la catégorie vins de France, puisque tous les vins orange produits en France sont des vins de France.
Parce qu'ils ne sont pas admis dans les décrets des appellations contrôlées.
Oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est une choix. Alors, ça permet de... Qu'est-ce que ça comme caractéristique, un vin orange?
Mais comme le disait très bien David, c'est au-delà de sa couleur, qui est quand même très très agréable, très lumineux et quelque chose de nouveau. Donc dans le vin, on n'a pas tous les jours quelque chose de nouveau sur la table. Donc ça, c'est quand même de la créativité de la part de nos opérateurs qui sont de plus en plus nombreux, comme vous le disiez, à venir et s'essayer à faire du vin orange. Mais c'est véritablement sa structure qui le différencie d'un vin majoritairement blanc ou rosé qui ont pas forcément cette même structure. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'être aussi bien un vin d'apéro qu'un vin qui ira avec des plats.
Ça fonctionne avec des plats de viande.
Absolument.
Sans aucun problème.
Absolument. Donc on est. Et alors, ça fonctionne bien au niveau du marché, c'est-à-dire que c'est un vrai succès, Valérie, les vins oranges.
Mais oui, je dirais que la mode est arrivée en France après avoir été le best-seller dans le monde entier. On a, par exemple, à New York, un caviste qui ne fait que du vin orange.
Que du vin orange.
Le Glou, la cave Glou. Donc ça paraît incroyable, on n'en est pas encore là en France, mais c'est en train de monter en puissance. Ouais. On avait dans notre concours 80 oranges l'année dernière, on en avait plus de 15 cette année, et ah, dont 6 médaillés. Donc c'est bien la preuve que, et avec des acheteurs du monde entier qui les ont dégustés, que la demande en vin orange est mondiale.
Et est-ce qu'on peut créer un vin orange avec tout type de cépage?
Exactement. C'est d'une inattendue, aussi bien du Sauvignon blanc, du Chardonnay, un assemblage des deux, que de l'Uni blanc, que du Chenin. Donc véritablement, tous les vignerons peuvent s'essayer avec des cépages différents. Et effectivement, le résultat est, même s'ils ont un peu la couleur orange en commun, absolument des goûts très très différents. On peut même aller jusqu'à assembler 7 à 9 cépages différents. Ah oui. C'est vous dire que l'attendu, on peut pas se dire j'achète, comme on parlait la semaine dernière, des cépages, voilà ce que je peux attendre en termes d'aromatique d'un Sauvignon ou d'un Pinot Noir. Oui. Là, véritablement, il n'y a pas deux vins oranges qui vont avoir le même goût.
Je dirais que c'est la technique qui prend le pas sur le cépage.
Ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin,
c'est pas une bonne chose, c'est pas qu'une bonne ou une mauvaise chose, c'est une chose différente.
Absolument.
Voilà. Donc, vive la différence.
Absolument, l'éloge de la différence. Valérie, on peut imaginer un cocktail à base de vin orange ou pas?
Mais oui, on avait déjà fait des cocktails avec les cépages Chardonnay, Sauvignon blanc, avec les rosés, avec les merlots, avec les pinots noirs. Et on s'est essayé lors de la Cocktail Street avec un cocktail orange qu'on a appelé Golden Hour, et où on a assemblé du vin orange,
du sirop,
sans alcool, de la liqueur de sirop sans alcool, et du tonique.
Il y a un zeste d'orange en plus ou pas?
Oui.
Pour conforter l'orange de l'orange, c'est ça?
Il faut vraiment qu'on se méprenne pas, se trompe pas, que dans le vin orange, il n'y a que la couleur orange, et il n'y a absolument pas d'orange.
Ce n'est pas du vin d'orange.
Ouais. Ouais, sauf dans le cocktail, là.
Exactement.
Où là, c'est volontaire. Bon. Et des glaçons aussi bien frais, je suppose.
Évidemment, pour que ce soit très frais.
Bon, allez, on réagit, parce que c'est vrai que ça concerne les vins de France, et c'est vrai que c'est une belle initiative. On casse un peu les codes.
C'est l'objet de cette catégorie de la créativité, de la liberté, qui permet aux vignerons et aux winemakers de faire véritablement les vins dont ils ont envie, c'est la vraie créativité.
Hélène, vous aimez ou pas? Enfin, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée?
Alors, c'est toujours une bonne idée d'essayer des choses. Voilà, c'est toujours une bonne idée de faire parler aussi.
J'attends le mail.
Mais non, mais de faire parler effectivement la différence entre chaque vigneron, puisque on le disait, c'est vraiment une question de savoir-faire qui fait la différence entre deux bouteilles. Ça peut être très déstabilisant pour des gens qui ont l'habitude depuis toujours qu'il y a eu trois couleurs dans le vin, et puis voilà, on s'en tient à ça. Mais c'est toujours intéressant.
C'est surtout le goût qui peut être déstabilisant. C'est pas la couleur tellement, mais c'est le goût.
Bah, la couleur aussi, ça influence, David. Hein.
Oui, mais ils sont pas tous oranges. J'insiste là-dessus.
C'est vrai.
Les vins de macération blancs existent et ou vertes même.
Oui, mais c'est
bleu pour les schtroumpfs, ça marche ou pas, non?
Ah ben, c'est une nouveauté. Je crois qu'il y a un gars en Corse qui a essayé de faire un vin bleu.
Oui. mais ça reste effectivement une catégorie à part entière. Il y a un bar que j'aime beaucoup à Paris, dans le 15e arrondissement, qui est au 102 rue du Théâtre, qui s'appelle le bar Vertical. Et qui a une carte de vin essentiellement bio, biodynamique, nature, pas uniquement, mais vraiment beaucoup. Et sa carte des vins comporte 4 pages très fournies. Et il y a une page de blanc, une page de rouge, une page de rosé, une page d'orange.
Il y a une page carrément de.
C'est ça. Et il a facilement.
C'est un copain de votre caviste américain.
Non, mais il a je sais pas 12 ou 15 références de vin orange.
Il faut que j'aille essayer, parce que il y a des bons. Hein. Tous ne sont pas mauvais. Hein.
Et ben écoutez, David. Un soir en terrasse, on est mi-avril, le printemps arrive, on va se faire ça tous les deux.
Valentier, Hélène. Mais c'est comme dans toute catégorie.
On invite Valérie et Alain aussi.
Quand il y a un phénomène de mode, il faut toujours se méfier de la mode. Donc, dans une catégorie aussi vaste que ça, vu la créativité et la liberté aux vignerons, il y a de tout. Il y a de très bons, de très moyens, de très mauvais. Il y a toutes les sortes.
Mais d'ailleurs, j'ai goûté plusieurs de ces vins au verre, hein, plusieurs fois bien sûr, et certains m'ont beaucoup plu et d'autres pas du tout.
Ouais, voilà.
Mais de la même façon qu'on ne peut pas dire que tous les vins rouges ou tous les vins blancs sont merveilleux.
Les vins naturels, ils sont tous mauvais.
Je pense que de la même façon que David est en train de dire bon, pas bon, on a chacun notre palais
goût,
et
voilà.
chacun nos attentes en termes de cépage.
Le goût est individuel et subjectif.
On est d'accord.
Très bien dit, Monsieur Martin.
En fin d'émission, je me réveille. Et Valérie, ça concerne combien d'acteurs au total en 20? de France. Enfin, du coup, c'est quoi? C'est une dizaine,
c'est
une centaine?
C'est en train de, on va dire, 30 à aujourd'hui, 30 mais aujourd'hui, c'est en train de monter en puissance de façon... Ouais. Je suis appelée tous les jours en disant, je vais faire un vin de France orange. Voilà, donc c'est très, très tendance.
Est-ce qu'il y a un système d'agrément?
Non, en vin de France, on considère qu'il y a les textes qui disent ce qu'est un vin. Oui. Et ensuite, il n'y a pas à agréer un profil organoleptique.
C'est le marché qui décide, évidemment. Oui, non, mais moi, je suis d'accord avec cette approche-là. Hein, évidemment.
Hélène, vous voulez dire quelque chose?
Oui, effectivement, je m'intéressais à savoir si c'était absolument dans toutes les régions. Est-ce qu'au fin fond du Jura, en Savoie, dans les côtes du Forez dont on parlait il n'y a pas longtemps, voilà, il y en a partout?
Je pense qu'il y a des vignerons créatifs dans toutes les régions de France.
Absolument, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup, et Valérie.
Et vous retrouvez les vins médaillés orange sur le site vinfrancewines.com et sur notre Instagram où on parle régulièrement des vins orange.
Merci beaucoup, Valérie Pajotin, Hélène Piau, ainsi que Gilles Bonnefoy, David Cobol et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a super bien préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook, Insta, Invino Sud Radio. Puis on va se retrouver la semaine prochaine. Il faudra attendre quelques jours. Ça sera samedi à 13h précise pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Bon déjeuner pour ceux qui y sont là. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais de respecter la plus grande des modérations.